Vous êtes sur Parole Adour, la web radio des paroisses du pays d'Acqua.
Pour sa rentrée, la TPA, antenne de théologie des pays de l'Adour, a invité M. François Moug les 29 et 30 septembre derniers à Bayonne pour deux conférences sur la transformation missionnaire des communautés chrétiennes. François Moug est docteur en théologie et doyen de l'ISP à l'Institut catholique de Paris. Alors que le modèle paroissial semble s'essouffler, notamment à cause de la diminution du nombre de prêtres, le pape François appelle à une transformation missionnaire de l'Église. La première conférence, ouverte à tous, a abordé cette question à partir du défi que constitue l'annonce de l'Évangile dans un monde sécularisé et donc de l'appel à une nouvelle évangélisation. Le lendemain, à l'occasion de la rentrée universitaire de la TPA, François Moug a abordé les enjeux ecclésiologiques de la question. Conférence du 30 septembre.
Bonjour à tous. Je suis très honoré de l'invitation qui m'a été faite de venir participer à cette journée, à la fois qui clôt l'année précédente par la remise des diplômes, et puis qui ouvre celle que vous allez vivre ensemble. Voilà, je suis toujours très impressionné que des personnes prennent du temps, un temps régulier, un engagement exigeant de temps, mais aussi de travail, d'investissement pour étudier la théologie. Et vraiment, je voulais vous dire que j'avais beaucoup d'admiration pour cet engagement-là. Moi-même, je suis... C'est vrai. J'ai enseigné pendant 4 ans à quelque chose qu'on appelle à Paris le cycle C. C'est pour préparer le baccalauréat canonique de théologie par cours du soir. Donc c'est un soir par semaine et un week-end par mois. Et moi j'ai arrêté parce que c'était trop dur pour moi. Une journée de travail, puis ensuite venir, puis une semaine de travail et venir le week-end. Moi. Donc je suis contenté d'enseigner pendant la journée, mais je suis d'autant plus admiratif de ceux qui font cet investissement-là. Comme Isabelle vous l'a dit, je m'appelle François Moug, ça vous le savez. Ceux qui étaient là hier soir savent que donc moi je suis docteur en théologie de l'Université Laval de Québec et docteur en théologie de l'Institut catholique de Paris, où j'ai travaillé, pour vous situer un peu la généalogie intellectuelle, à Québec avec Gilles Routier, et à Paris avec Hervé Legrand, qui sont des ecclésiologues connus. Et moi-même, j'avais fait une thèse sur le lien entre droit canonique et ecclésiologie, et notamment un travail de recherche sur le canon 517, paragraphe 2.
Vous nous rappelez pour mémoire?
Et plus exactement, un mot dans le canon 517, paragraphe 2. Le canon 517, paragraphe 2, il y en a un qui ne s'en souvient pas, mais pour vous, je vais l'expliquer aux autres. C'est le canon qui, comme vous le savez tous, ils ont des cours de droit canonique?
Oui.
Le canon 515 est le canon qui commence le chapitre sur la paroisse. Voilà. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Et le canon 517, donc tout de suite au début, il commence déjà à prévoir, mais si dans un diocèse, il n'y a pas assez de prêtres, comment va-t-on faire pour diriger la paroisse? Le canon 517.1 dit que l'évêque, dans ce cas-là, peut confier à un groupe de prêtres la charge d'une ou de plusieurs paroisses, et alors ils sont curés in solidum, si vous avez entendu le canon. Et le canon 517.2 dit que l'évêque peut confier à un diacre, à un laïc ou à un groupe de laïcs une participation à l'exercice de la charge pastorale, et dans ce cas-là, il doit nommer un prêtre qui est le modérateur. Donc le canon 517, paragraphe 1 et paragraphe 2, organise techniquement, par les termes de in solidum, les termes de l'expression participation à l'exercice de la charge pastorale et le terme de modérateur, comment un évêque, en cas de pénurie de prêtres, peut organiser ses paroisses. Mais de fait, on va beaucoup en parler ce matin. Ma particularité, donc j'enseigne l'ecclésiologie à l'Institut catholique de Paris. J'ai la particularité d'être donc professeur et même d'être le premier laïc à avoir accédé au grade académique de professeur à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris. Et même pendant 2 ans, j'ai été le seul, mais maintenant on est 5, dont 2 femmes. Mais le premier, c'était un homme quand même, parce que... Hein, quand même. Hein. Mais voilà, tout ça, c'était il y a 5 ans seulement. Vous voyez, c'est... Alors, je suis un ecclésiologue un peu contrarié, dans le sens où il y a des gauchers contrariés. Ma belle-mère est un gaucher contrarié, c'est-à-dire que pendant toute son enfance, on lui a interdit d'écrire de la main gauche, donc elle écrit de la main droite, mais elle est quand même gauchère. Moi, je suis un ecclésiologue contrarié, dans le sens où, à peine j'avais terminé ma thèse et j'ai devenu maître de conférence, qu'on m'a demandé de faire de l'ecclésiologie, mais ailleurs. Donc j'ai été pendant 7 ans directeur de l'Institut supérieur de pastorale catéchétique, l'ISPC, qui forme donc des cadres de la catéchèse en France et dans le monde d'ailleurs. Et là donc j'ai dû faire de l'ecclésiologie, mais pour la catéchèse. Et depuis 3 ans, je suis doyen de la faculté d'éducation de l'Institut catholique de Paris, donc ça s'appelle l'ISP, l'Institut supérieur de pédagogie. Et là donc je dois faire de l'ecclésiologie, mais dans le cadre de recherche sur l'éducation catholique et la formation des maîtres de l'enseignement catholique, donc des professeurs des écoles, professeurs des collèges, professeurs des lycées. Et alors la manière dont j'ai essayé de faire ça, de continuer à faire de la théologie tout en m'intéressant à la catéchèse et à l'éducation catholique, c'est à partir d'un terme dont on va parler aussi ce matin, c'est celui de communauté. Donc en catéchèse, c'était en quoi l'annonce de l'évangile est-elle la responsabilité d'une communauté ? Et en quoi la communauté est-elle l'authentique sujet de la transmission de la foi et de l'annonce de l'évangile? Et puis, maintenant, là, je travaille beaucoup sur la prétention des écoles catholiques. Il y en a qui travaillent pour l'enseignement catholique? Alors, quand je dis prétention, c'est au sens noble du terme. Vous l'avez été. Prétention de l'enseignement catholique de constituer une communauté éducative qui est sujet de la mission de l'Église, la mission éducative de l'Église, sauf que ces communautés sont constituées de personnes qui sont croyantes ou pas. Parce que dans la communauté éducative d'enseignement catholique, il y a des catholiques, il y a des chrétiens non catholiques, mais il y a aussi des gens d'autres religions, des gens qui sont sans religion, des gens qui sont sans opinion, et même des gens qui sont plutôt contre. Comment est-ce que ça peut être vraiment une communauté qui est sujet de la mission de l'Église? Voilà. Donc le terme de... Voilà, la notion de communauté, c'est cela que je travaille. Alors aujourd'hui, on va donc parler... C'est la fin de la présentation. C'est le même format qu'hier soir. On va parler de la transformation missionnaire de l'Église. Et je voudrais le faire... alors là, pour ceux qui étaient là hier soir, vous voyez, ce ne sera pas la même chose. Ça va commencer pareil. Donc n'ayez pas peur, mais ça commence pareil. Ce n'est pas une petite révision. Je voudrais le faire à partir de cette expression qui est celle de la nouvelle évangélisation. Alors pourquoi est-ce que je voudrais commencer pour parler de la transformation missionnaire de l'Église par parler de la nouvelle évangélisation? Pour une raison qui est un fait, voilà, c'est que depuis Jean-Paul II, on a beaucoup parlé de nouvelle évangélisation, c'est lui qui a introduit l'expression dans la vie de l'Église. Benoît XVI en avait fait un des axes majeurs de son pontificat, en promulguant une année de la foi dont l'un des axes c'était la nouvelle évangélisation, en créant un conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation et en convoquant un synode sur la nouvelle évangélisation. Le pape François, lui, en succédant au pape Benoît XVI, a dû promulguer les actes du synode sur la nouvelle évangélisation, mais dans la constitution apostolique Evangelii Gaudium, qui est la suite du synode sur la nouvelle évangélisation, on ne parle pas de nouvelle évangélisation. Et le chapitre 1 s'intitule « La transformation missionnaire de l'Église ». Donc, on va émettre l'hypothèse que quand le pape François parle de la transformation missionnaire de l'Église, il parle de nouvelle évangélisation. Que c'est la manière dont il traduit le terme « nouvelle évangélisation ». Pour lui, « nouvelle évangélisation », ça veut dire la nécessité pour l'Église d'une transformation missionnaire. Il y a une continuité, mais il va falloir essayer de comprendre comment on passe de l'un à l'autre. Alors, dans les faits, c'est assez simple. C'est-à-dire que, à la fois pour le pape Jean-Paul II et le pape Benoît XVI, il y avait l'urgence d'établir un diagnostic et de tirer une sonnette d'alarme. Et le pape François lui dit, maintenant, on se retrousse les manches et on se met au travail. Pour donner la réponse la plus juste à ce diagnostic qui a été posé par mon prédécesseur, moi je veux engager l'Église dans une transformation missionnaire. D'ailleurs, il le fait aussi, il y a une forme de continuité, mais aussi une forme de rupture, parce qu'il le fait à partir de sa culture propre sud-américaine, et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà lu et étudié le texte d'Aparecida, qui est un grand texte de la conférence des évêques d'Amérique du Sud sur précisément sur l'annonce de l'Évangile, et ils opèrent déjà ça. Mais c'est une réponse, mais l'a autorisée à la question de la nouvelle évangélisation. Alors pour ça, il faut donc commencer par l'héritage, c'est-à-dire le diagnostic que nous a laissé notamment le pape Benoît XVI sur la nouvelle évangélisation. Alors, la manière dont le pape Benoît parle de nouvelle évangélisation, on va la trouver dans beaucoup de son enseignement. Moi, j'ai retenu deux passages de deux textes. Le premier, c'est le décret motu proprio par lequel il crée le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, dont le titre est « Ubicumque et semper ». Mais ceux qui étaient là hier vous donneront la traduction parce que je ferai ça à la pause. Ubicumque et semper. Et il pose là un premier élément de diagnostic, c'est un terme, le terme de détachement de la foi. Il dit ceci: à notre époque, l'une de ses caractéristiques particulières a été de se mesurer au phénomène du détachement de la foi qui s'est manifesté progressivement au sein de sociétés et de cultures qui, depuis des siècles, apparaissaient imprégnées de l'Évangile. Donc, on voit dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire récente de l'Église, il y avait des pays entiers qu'on pouvait considérer comme étant des pays clairement catholiques, avec une population très, très majoritairement catholique, dans lesquels le dispositif pastoral de l'Église catholique était dominant, qui fonctionnait très, très bien, et d'un seul coup, ça a pris quelques dizaines d'années quand même, mais ça s'est mis à ne plus fonctionner aussi bien. Et le principe de transmission à peu près naturelle de la foi a été perturbé, et donc le pape Benoît XVI appelle ça un détachement de la foi. Il y a quelque chose du lien qui semblait naturel entre la foi chrétienne, l'Évangile, le dispositif pastoral de l'Église et la culture et la vie sociale qui est en train de se défaire. Ce lien est en train de se défaire, de se détacher. Dans un autre texte, alors qui n'est pas de Benoît XVI, mais qui est de quelqu'un qui lui approche, qui s'appelle Joseph Ratzinger, en l'an 2000, oui, parce qu'il a écrit sous pseudonyme aussi, en l'an 2000, quand il n'était encore que le cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, il a donné une conférence dans le jubilé des catéchistes qui s'appelle « La nouvelle évangélisation ». Et il y a un passage de ce texte là qui me semble très pertinent pour comprendre un peu mieux ce qu'a Benoît XVI quand il parle de détachement de la foi et de l'urgence à laquelle ça nous appelle. Il dit ceci: nous observons un processus progressif de déchristianisation, donc c'est bien cela, et de perte des valeurs humaines essentielles, et ceci est préoccupant. Donc là, on est bien effectivement dans le signal d'alarme, mais ce qui est très intéressant pour nous ce matin, c'est que, Benoît XVI, comme le pape François d'ailleurs, mais ce n'est pas les mêmes, avait des détracteurs. Et ses détracteurs n'arrêtaient pas de dire « Oui, mais ils n'arrêtent pas de se préoccuper de la force, de la puissance et de l'emprise de l'Église. » Mais si c'était le cas, il dirait dans ce texte que la déchristianisation, c'est une perte des valeurs chrétiennes essentielles. Quelqu'un qui est qui a peur pour la perte de l'emprise de l'Église. Non, là il dit le danger, c'est pas le danger, un danger pour l'Église. Il dit c'est un danger pour l'humanité. La déchristianisation, elle s'accompagne, c'est le et, voilà, des deux déchristianisations et de perte des valeurs humaines essentielles. Le danger, c'est ça. Le danger, c'est le fait que lorsque l'Évangile recule, alors l'homme est en danger. L'Église aussi, si vous voulez, mais ça, ce n'est pas préoccupant. Le danger de l'Église ne dépend pas de l'Église. La vitalité de l'Église dépend du Christ. Donc ça, c'est chacun ses problèmes. Mais là, le problème, c'est notre responsabilité vis-à-vis de l'humanité elle-même. Et alors, il le dit d'une manière qui me semble absolument décisive dans la suite de la phrase. Une grande partie de l'humanité d'aujourd'hui ne trouve plus dans l'évangélisation permanente de l'Église l'Évangile, c'est-à-dire une réponse convaincante à la question « comment vivre ?». Donc, ce que nous dit ici Benoît XVI, c'est « voilà, nous, l'Église, voilà, on fait ce qu'on a à faire, on annonce l'Évangile, on fait en sorte qu'il y ait des messes auxquelles tout le monde à peu près peut aller, on fait en sorte d'organiser le caté dans les paroisses, on fait en sorte que quand des gens veulent se marier, ils arrivent à trouver un curé pour le faire, et que pour les obsèques, si on ne trouve pas un prêtre, on organise des groupes de laïcs. Bon, voilà. Enfin, l'Église, elle sait faire cela, mais sauf que ce qu'elle ne sait plus faire, c'est en faisant tout cela, dans l'évangélisation permanente de l'Église, être un acteur d'espérance pour le monde contemporain. Et quand nous faisons tout cela, ben, nous réussissons cet exploit de pouvoir le faire sans être des témoins crédibles du Christ ressuscité. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Mais vous voyez que ce qui est intéressant ici, c'est que notre tentation, ce serait de dire que c'est la faute des autres. Regardez, tous ces gens qui sont plus chrétiens, ils ne croient plus à rien, ils n'ont même plus de valeur, ils savent même plus ce que c'est que l'Évangile. Non, mais ce n'est pas de leur faute à eux, c'est de notre faute à nous. C'est-à-dire que nous, il y a quelque chose que nous ne savons plus faire. Alors, il y a la réponse de Benoît XVI, qui est redevenu Benoît XVI, mais dans Obecumque et Semper, c'est dire, voilà, la méthode, c'est se laisser régénérer par la force de l'esprit. Ça, c'est la réponse de Benoît XVI. Et on reconnaît là la puissance spirituelle de Benoît XVI. Se laisser régénérer par l'esprit. Puisque c'est notre responsabilité qui est engagée envers l'humanité, c'est nous qui allons devoir changer. Et, si vous voulez, mon avis, beaucoup plus terre-à-terre que celui du pape Benoît XVI, mais... on perdra moins de temps à essayer de nous changer nous qu'à essayer de changer les autres. Mais voilà, ça c'est pragmatique. Voilà. Et comment est-ce que l'Église se change? Eh bien, pour le pape Benoît XVI, alors je dis pour le pape Benoît XVI, c'est lui qui dit ça, mais je ne vois pas un seul pape dans toute l'histoire de l'Église qui irait dire le contraire. La manière pour l'Église de se changer, c'est de se laisser changer, se laisser régénérer, voilà, par l'Esprit Saint. Alors, hier, on a lu le récit de la Pentecôte, puis on a vu comment est-ce que l'Esprit Saint régénère l'Église. Mais ce matin, on va prendre une autre voie. C'est là que les deux voies bifurquent. Donc si vous étiez là hier soir, c'est là qu'il faut arrêter de dormir et reprendre le fil. Parce que le pape Benoît XVI dit « se laisser régénérer par l'Esprit Saint », et le pape François, lui, dit, il le dit dans ces termes, mais qui sont les mêmes, hein, « j'imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour l'évangélisation du monde actuel, plus que pour l'auto-préservation. » Et là, vous voyez, c'est là le pape François fait le même passage que le pape Benoît XVI, il dit arrêtez d'essayer simplement de continuer à être l'Église comme vous l'avez toujours été. Alors là, on va faire une interrogation orale qui va compter pour la validation de l'année. Pour ceux qui étaient là hier soir, les autres, ils ne peuvent pas avoir une interrogation. Ouais. Comment le père Pierre-André Biégé appelait-il techniquement le fait de ne pas changer en disant « on a toujours fait comme ça » ? Voilà. Alors, je le répète, il appelait ça le tussiorisme pusillanime. Voilà, il y a l'accent bien. Cette capacité, alors de tous les groupes humains, hein, je veux dire, ça, l'Église n'est pas championne de cela, mais ça devient un problème quand c'est l'Église qui dit, de ne pas changer, de continuer à faire toujours la même chose pour rester, voilà, de consacrer beaucoup d'énergie à maintenir le dispositif plutôt qu'à se remettre en question, avec ce refrain, donc, qui est le signe de cette maladie que le père Liégé appelait le tussiorisme pusillanime, c'est « on a toujours fait comme ça ». Alors là, tout curé arrivant dans une nouvelle paroisse, tout catéchiste arrivant dans un truc, tout le monde a déjà entendu au moins 1000 fois cette phrase « ah oui, mais on a toujours fait comme ça ». Qui se manifeste par exemple quand, pour la préparation et la célébration de nos professions de foi, on commence d'abord par ressortir la feuille de chant l'année dernière et voir si on voudrait modifier quelque chose ou pas, parce qu'on a toujours fait comme ça. Voilà. Mais que l'important, c'est de faire la même messe de profession de foi. Voilà. Mais là, on ne s'est pas interrogé sur mais ce qu'on a toujours fait, est-ce que ça annonce une bonne nouvelle ? Est-ce que ça engage les hommes et les femmes à qui on s'adresse sur la voie d'une réponse convaincante à la question « mais comment vivre ?» Et donc, il va falloir s'engager, à la suite de cette proposition du pape François, sur ce principe de transformation missionnaire de l'Église. Alors, pour cela, l'ecclésiologue... Alors, ça aurait pu le dire en introduction, je vous le dis maintenant, ça vous ferait une petite pause, mais l'ecclésiologue, lui, il a... Alors, ce que moi je considère comme un atout, mais que souvent des étudiants, des pasteurs, des responsables pastoraux considèrent comme un obstacle, c'est que l'ecclésiologie, c'est une discipline seconde par rapport à la vie de l'Église. Le rôle de l'ecclésiologue, ce n'est pas de dire ce que l'Église devrait être. Le discours de l'ecclésiologue ne consiste pas à dire « il faut ceci » ou « il faut cela », surtout quand il s'adresse à un évêque. Parce qu'il y a la responsabilité des pasteurs et c'est eux qui conduisent l'Église, c'est pas les théologiens qui conduisent l'Église, voilà, c'est les pasteurs. Il y a un magistère du théologien, mais dans le cas de l'ecclésiologie tout au moins, c'est un magistère qui s'exprime par le discernement théologique des situations. C'est le père Yves Congar qui posait le premier cette affirmation que l'ecclésiologie est une discipline qui n'est pas première par rapport à la vie de l'Église. C'est l'Église qui sait ce qu'elle doit être, puisque en elle, l'Esprit est agissant. Le théologien, lui, bien, il essaye de trouver des outils d'analyse, voilà, pour que l'Église ait la plus claire conscience possible de ce qu'elle est en train de faire. Donc moi, je ne peux pas inventer ce que va être l'Église missionnaire transformée, mais je peux vous donner des outils pour essayer de comprendre les enjeux, les points de blocage, les voies où on peut traverser, celles où il vaut mieux avoir des bottes, voire plutôt un véhicule de l'avant blindé. Bon, voilà. Et donc, moi, ce que je veux faire, c'est vous donner des modèles. Alors, je vais vous présenter deux modèles. Voilà. Deux modèles de fonctionnement de l'Église. Le premier de ces modèles, je vais l'appeler le modèle 17. Oui, parce que pour faire sérieux, il faut donner des noms de code aux modèles. Et quand on dit... Et c'est un petit truc d'étudiant, c'est que si vous dites qu'il y a deux modèles, le modèle 1 et le modèle 2, tout le monde dit, bon, évidemment. Tandis que si vous commencez par le modèle 17, là, ça éveille l'attention. Le modèle 17, c'est un modèle d'encadrement. Ce qui caractérise le modèle 17, c'est un modèle d'encadrement, et donc il va falloir passer de l'encadrement à la dynamique missionnaire. Alors, normalement, si vous êtes à peu près normalement curieux et pas trop fatigué pour un samedi matin, vous vous demandez, mais pourquoi 17 ? C'est ça le principe. Pourquoi 17 ? Eh bien, à cause de ceci. À cause du code de droit canonique de 1917. 17 comme 1917. Oui, parce que si vous avez commencé à dire le premier modèle 1917, vous dites, oulala, c'est... Après, c'est comme le Concorde, hein. C'est-à-dire que c'est pas le premier modèle qui vole, mais si vous dites que vous avez fait 1907 essais avant, c'est-à-dire que vous êtes vraiment sûr que celui-là, ça va marcher. Voilà. Au 17e. Alors, je suis absolument désolé, mais le Code de droit canonique de 1917 n'a jamais été traduit en français, donc il va falloir le lire dans la langue dans laquelle il a été écrit. Hein. Et alors, donc, le canon 451 du Code de droit canonique de 1917, c'est le canon qui commence la section sur la paroisse. Donc, c'est la première définition de la paroisse dans le Code de droit canonique de 1917. Et là, ce qui saute aux yeux immédiatement, c'est que la définition de la paroisse dans le Code de droit canonique de 1917 commence par le curé. Le titre, vous ne faites jamais ça dans un devoir. Grand 1, la paroisse, et vous faites tout le développement sur le curé. Bon, ben, le prof normal vous dirait que vous êtes trompé de titre, ou alors vous avez inversé là.
Hors sujet.
Eh bien, le Code de droit canonique de 1917 n'est pas hors sujet, par définition, mais pourtant. Il commence par le curé, en disant que le curé est un prêtre, hein, à qui, sous l'autorité de l'évêque, hein, va exercer ce qu'on appelle donc la charge d'âme, cura animarum, là, ici. C'est dans une paroisse. Donc. Alors, le Code de droit canonique de 1917... Je ne sais pas pourquoi c'est blond après, mais ça ne va pas l'être. Hein. Il fonctionne selon une double logique. Une logique qui est cléricale, donc on commence par un clerc, le curé, et qui est territoriale. Enfin, quand je dis le curé, à chaque fois, de toute façon, c'est l'évêque. L'évêque est au-dessus. Et je ne dis pas ça juste parce qu'il y a l'évêque dans la pièce. Je vous assure que je le redis tout le temps. L'autorité de l'évêque est la première. Mais pour penser ce que c'est que la paroisse, on a une équation avec deux variables. La première variable, c'est prêtre. Deuxième variable, c'est territoire. Oui, le principe est simple. Hein. Alors, le problème, c'est que le principe est simple, mais parfois, ça ne marche pas. Parce que c'est un principe d'encadrement, donc encadrement par un curé d'un territoire dans lequel il y a des chrétiens. C'est le principe du diocèse, c'est le principe de la paroisse. C'est un principe qui existe dans l'Église depuis de très nombreux siècles, qui a été mis en place très très rapidement, tout au moins dès que l'Église a cessé d'être un phénomène uniquement urbain, mais pour se retrouver dans les campagnes, là, il a bien fallu organiser les choses. Voilà. Ben pour organiser les choses, on a encadré, on a divisé les territoires, on a mis des responsables dans chaque territoire, comme ça chacun savait de qui il dépendait. Voilà. Et on a dit aux responsables du territoire, vous êtes responsable du salut des âmes de ceux qui habitent sur ce territoire. Voilà. Donc, si vous êtes évêque, vous avez un grand territoire, un diocèse, si vous êtes curé, vous avez un petit territoire, c'est une paroisse, si vous êtes archevêque métropolitain. Et donc ça, c'est, voilà, ça a fonctionné, ça a vraiment, d'une part, sauvé l'Église, quand il y a eu de gros défis historiques pour l'Église, comme par exemple au XIe siècle. La réforme grégorienne a pu s'appuyer sur un système comme celui-ci, puis aussi sur les congrégations, mais on ne va pas faire toute l'histoire de l'Église en 3 minutes. Et au moment du Concile de Trente, lorsqu'il a fallu réagir à la réforme, la réaffirmation du modèle territorial là, d'encadrement a été très puissante, puisque dans la lutte contre les protestants, le fait qu'un curé avait son village et sa zone d'influence, ça lui disait exactement quelle était sa responsabilité, puis ça organisait, enfin... Le principe d'organisation d'encadrement est très puissant. Il a sauvé l'Église et il lui a vraiment permis d'annoncer l'Évangile avec pertinence pendant des siècles et des siècles. Donc, il est normal que le Code de 1917 affirme ça. Sauf que parfois, ça ne marche pas. Alors, je vais sortir de mon diaporama, faire une page blanche et vous donner un petit exemple. Alors, c'est un exemple par l'absurde, mais parfois, on est obligé de raisonner par l'absurde. Nous sommes en l'an 1950. Dans un diocèse rectangulaire. Là, vous dites que c'est pas un des vôtres. Voilà, c'est, voilà. Et ce diocèse, hein, il a à la tête son évêque. Alors, je dessine très bien les évêques. Mais on les reconnaît bien. Hein. Et il règne donc sur un territoire qui est son diocèse. Mais comme il ne peut pas être partout, parce que c'est un grand diocèse, ben, L'évêque, il a subdivisé son diocèse en petits territoires. Il a nommé à la tête de chacun de ces territoires un prêtre. Alors le prêtre, on le reconnaît moins, je suis d'accord, mais comme vous avez la légende, après. Et dans ce diocèse-là, en 1950, il y a 100 prêtres et 72 paroisses. Donc l'évêque est un évêque heureux, puisqu'il prend 72 prêtres qu'il nomme curés, quelques-uns qu'il nomme vicaires dans les grosses paroisses, notamment du centre-ville, et puis il lui reste encore plein de prêtres, pour être aumônier de l'enseignement catholique, prof dans les lycées, aumônier de l'action catholique, archiviste, bibliothécaire, chancelier, secrétaire de l'évêque, chauffeur de l'évêque, cuisinier de l'évêque, enfin voilà. Il a plein de prêtres, donc. Sauf que le monde est en train de changer, et puis il y a un processus de déchristianisation qui s'accompagne d'une disparition progressive du nombre de prêtres. Voilà. Je tiens à vous préciser que je ne prends aucun plaisir à faire disparaître les prêtres. Non, mais il faut qu'on soit clair. Et donc, on arrive, 25 ans plus tard, en 1975, dans ce même diocèse, il n'y a plus que 65 prêtres. Entre 50 et 75, il s'est passé deux choses. La première, c'est que l'évêque a ordonné moins de prêtres qu'avant. Voilà. Donc, dans la plus haute période... Alors, j'ai moi-même déjà analysé le nombre de prêtres et le nombre d'ordinations en France de la Révolution française à nos jours, donc sur deux siècles, un peu plus de deux siècles maintenant. Et alors, il y a eu des pics en France où on a ordonné jusqu'à 2800 prêtres par an. Voilà. Et cette courbe-là du nombre d'ordinations, elle est en dents de scie, mais on est capable de comprendre comment elle fonctionne. Sauf qu'à partir de 1948, très précisément, là, la courbe, elle devient très cohérente, elle descend jusqu'en 1980, et là, elle se stabilise en descendant un peu. Voilà. Mais dans le plus gros, c'est-à-dire au début du Second Empire, donc au milieu du 19e siècle, on s'est mis à ordonner en France plus de 2500 prêtres par an. Et aujourd'hui, quand on en ordonne 100, la conférence épiscopale fait une standing ovation. En gros, c'est ça. Mais voilà, à partir de 1948, on a moins ordonné. Alors, il suffit que le nombre de prêtres continue, enfin, les prêtres continuent de vieillir, il y en a qui décèdent, il y en a qui partent à la retraite, mais comme le nombre d'ordinations diminue, ils ne sont pas remplacés. Ça, c'est le premier problème, ça fait diminuer. Puis il y a un autre problème, c'est qu'entre 1965 et 1975, il y a un nombre très important de prêtres qui vont quitter le ministère. Alors ça va toucher de fait plus les ordres religieux, notamment par exemple les dominicains et les jésuites, mais ça va beaucoup toucher les clergés diocésains aussi. Moi, je connais des prêtres qui étaient déjà prêtres, donc qui ont été ordonnés au début des années 60, et qui me disent, mais de ma promotion, je suis le seul, tous les autres sont partis. Voilà. Mais ça, dans certains diocèses, dans d'autres, c'est une pétition. Voilà. Et donc, tout ça, ça fait diminuer le nombre de prêtres. Et donc, voilà, notre évêque, avec ses 72 paroisses, il n'a plus que 65 prêtres. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit une chose, il dit, je manque de prêtres. Ben oui, ben si, ça. Si la paroisse c'est un territoire plus prêtre, nombre de territoires plus nombre de prêtres, s'il y a plus de territoires que de prêtres, ça veut dire qu'on manque de prêtres. Avant, il disait pas je manque de paroisse, mais là il dit je manque de prêtres. Et ça marche toujours comme ça. Hein. C'est-à-dire, je vous ai annoncé un raisonnement par l'absurde, mais parfois ça fonctionne comme ça. Par exemple, en 1848, pour la première fois au 19e siècle, le vicaire général d'Orléans publie une tribune pour dire « Dans le diocèse d'Orléans, on manque de prêtres. Pourquoi » Pourquoi? Parce qu'il y avait plus de paroisses que de prêtres. Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il continuait à nommer des prêtres professeurs dans les grands séminaires, chauffeurs de l'évêque, etc. Mais voilà, il n'avait plus assez de prêtres pour mettre un curé par paroisse. 1848. En 1930, le pape Pie XI lance un appel vibrant à l'action catholique. Pour quel motif? L'insuffisance numérique des milices sacerdotales. Et c'est le vocabulaire de vous. L'insuffisance numérique des milices sacerdotales. 1930. À l'époque, il y avait en France à peu près 75 000 prêtres. On va commencer à arriver à 5 000 aujourd'hui, alors que le vocabulaire, enfin, on ne peut pas s'appauvrir pour manque de prêtres. Sinon, on n'est pas fidèle à ce qui se passait dans les années 30. Donc, voilà, on manque de prêtres. Dès qu'on a moins de prêtres que de paroisses, alors on dit qu'on manque de prêtres. Mais dans ce cas-là, selon une logique territoriale, la solution est très simple. Très bien, je n'ai que 65 prêtres, donc je fais des nouvelles paroisses et j'en fais 40. Comme ça, j'ai le temps de voir venir, 65 prêtres. Et ça va, j'ai assez de prêtres. Vous voyez l'absurde de ne raisonner qu'en termes de nombre de territoires, nombre de prêtres ? Parce qu'entre 1975 et l'an 2000, le processus de déchristianisation et le processus de diminution du nombre de prêtres n'a pas été stoppé. Attendez, stop, je l'ai trouvé. Et donc, en 2000, il se retrouve avec 30 prêtres, 40 paroisses. C'est pas le même évêque, hein. C'est 50 ans. Hein, 50 ans d'épiscopat, non. J'ai pas loin quand même dans mon. L'évêque de Nouméa, il doit être à 45 ans d'épiscopat à Nouméa. Et l'évêque de Saint-Denis à La Réunion, il est bien à 40 aussi, à Monseigneur Aubry. Mais bon, c'est pas le même celui-là. Dans le diocèse rectangulaire, c'est pas le même. Mais le nouvel évêque, là, en demi, il arrive, lui, il a 40 paroisses, il a 30 prêtres, qu'est-ce qu'il dit ? Il manque de prêtres. Mais c'est pas grave, on fait des nouvelles paroisses. Je fais 15 paroisses, 30 prêtres, j'ai deux fois trop de prêtres pour le nombre de paroisses. Oui,
je peux ordonner.
Hein ?
Je peux ordonner.
On a ordonné 3 fidéis de nous dans le diocèse d'à côté. C'est... Vous voyez ? La logique territoriale. Oui, mais si on pousse cette logique territoriale par l'absurde, à la fin, on va faire des regroupements de diocèses. C'est-à-dire qu'on va dire que la France, comme on n'aura plus assez de prêtres, on va dire la France c'est un diocèse, et puis chaque diocèse actuel c'est une paroisse, et donc il suffit qu'on ait à peu près 95 prêtres en France, et ça y est, voilà, on est capable d'assurer l'encadrement. Mais si le principe c'est qu'il faut assurer l'encadrement, alors on adapte le nombre de territoires au nombre de prêtres, puis à la fin on dira, comme on manque d'évêques aussi, et alors on va faire en sorte que l'Europe c'est une paroisse, puis l'Europe c'est un diocèse, puis la France c'est une paroisse. Donc si on a un prêtre en France, ça marche. Puis après on va dire le monde c'est un diocèse, puis chaque continent c'est une paroisse, donc avec 5 prêtres on s'en sort. Et à la fin, de toute façon, tant qu'il y a un pape, ça marche. C'est-à-dire tant qu'il y a un pape, on est capable d'encadrer. Vous voyez, c'est ça le principe. Ouais. Alors, vous voyez. Il faut aller jusqu'au point de l'absurdité. Alors le point de l'absurdité, je vous l'énonce maintenant, c'est que 100% des papes, 100%, hein, c'est pas, y a pas, 100% des papes ont été laïcs. Et là, on se rend compte qu'on a oublié un élément dans l'équation. Les fidèles. Donc voilà, premier problème. Deuxième problème. La logique d'encadrement, dans le cadre d'une adaptation de la structure au nombre de prêtres, c'est une logique de guichet. C'est-à-dire quoi, une logique de guichet, ça veut dire qu'une paroisse, c'est un guichet, un comptoir, et puis derrière, on met un représentant de l'institution, donc ici plutôt un prêtre, et puis on vient s'adresser à ce guichet dès qu'on a besoin de quelque chose. Voilà. Bonjour, je suis amoureux, avec ma femme, on voudrait se marier, est-ce que vous pourriez nous vendre ce produit qu'on appelle un mariage ? Et on préférait le faire chez vous plutôt qu'à la mairie parce que c'est plus joli, puis il y a de la musique. Quoi. Ou parce qu'on est très croyant, enfin, tout est possible. Mais... Donc, vous voyez, on vient s'adresser au guichet quand on a besoin de quelque chose. Alors, les gens, ils ont besoin d'un guichet pour se marier, ils ont besoin d'un guichet pour baptiser leurs enfants, ils ont besoin d'un guichet pour que leurs enfants aillent au cathé, ils ont besoin d'un guichet pour enterrer leur grand-mère quand elle est décédée, ils ont besoin d'un guichet à peu près tous les dimanches, s'ils sont sérieux, pour avoir sa messe. Enfin, où est-ce que je vais avoir ma messe ? C'est le guichet. L'avantage du guichet, c'est que si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aller dans un guichet ailleurs. Mais, vous voyez, la dynamique missionnaire, elle est faible. D'autant plus qu'il y a d'autres guichets. Oui, parce que le principe de déchristianisation fait que ben, on a perdu la maîtrise du territoire. Et donc, il y en a d'autres. Alors, ce guichet-là, c'est celui qui nous occupe le plus, là, mais maintenant, on a un spécialiste du dialogue avec les gens du guichet-là. Bon. Ceux-là, on ne sait pas qui c'est, mais pas grave. Bon. Et ceux-là, bon, on les a maîtrisés depuis longtemps. Mais... Sauf que je n'ai pas fait les autres guichets. Hein. Vous faites l'autre guichet, mais Netflix, c'est un autre guichet. Oui, c'est un... Est-ce que je vais à la messe ou est-ce que je regarde une série? Mais posez-vous la question de Benoît XVI, qu'est-ce qui annonce la meilleure bonne nouvelle des deux? J'ai peur qu'il y ait plus de gens qui pensent que c'est Netflix. Vous voyez ce que c'est Netflix?
Oui.
Non mais je... Non mais je... Voilà. Allez, est-ce qu'on est au même niveau que le guichet Netflix? Ben c'est pas sûr. Hein. Est-ce qu'on est au même niveau que le guichet... bon, c'est les hindous, j'ai pas fait de bouddhisme, mais j'aurais pu faire un bouddhiste... pour nous apprendre à nous relaxer et à avoir une posture sereine dans le monde contemporain. Voilà. Est-ce qu'ils sont meilleurs que nous ou est-ce que nous, on est meilleurs qu'eux? Alors non, oui, mais nous, on a une tradition. Oui, mais eux aussi. Enfin, ouais. Si on raisonne en termes de guichet, d'un seul coup... Et puis, le problème, c'est que ce guichet-là, il donne une image très étonnante et très bizarre, pour tout dire, de la mission. Alors là, je vais vous montrer une affiche. Une affiche qui a été faite pour le denier de l'Église... il y a 3 ans, je crois, d'un diocèse qui n'est pas du tout à l'ouest de la France, qui est complètement à l'est. Donc, enfin, c'est celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est une affiche pour le dieu de l'Église. Alors, pour ceux qui ont de bons yeux, c'est le diocèse de Gap et d'Embrun. Voilà.
Gap
et d'Embrun, oui. J'ai dit quoi? Oui, Gap. Exact. Alors, vous voyez, le principe est très simple, hein. Alors, je suis désolé pour ceux qui nous écoutent via l'enregistrement là, parce qu'ils ne voient pas l'affiche, mais le principe est simple. Hein. La mission, c'est quoi? La mission, c'est le guichet. Baptême, mariage, funérailles, aumônerie, visite aux personnes. Ça ne vous donne pas le salut ou la vie éternelle. Hein. Mais, ça vous donne du bien de consommation religieuse dont vous avez besoin. On en a d'autant plus pour son argent que, franchement, c'est pas cher. Hein. Là où on est très compétitif, c'est sur le prix. Hein. Je ne sais pas s'il y a des sociologues qui ont déjà fait cette enquête-là, mais de voir la part du budget religieux dans un mariage lambda en France, avec vos 500 euros, là, vous êtes ridicule. Le traiteur se taille la part belle. Hein, je veux dire, c'est un service important et pas cher. Donc ça, c'est un argument. Hein. C'est un argument marketing. Alors, vous voyez bien que ce n'est pas ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, si votre objectif, c'est de remplir les églises, ne faites pas venir un théologien, faites venir un consultant en marketing. Lui, il vous donnera des trucs pour faire venir les gens dans vos églises. Mais selon le principe du guichet. Voilà. Et qui est derrière le guichet? C'est cet homme. Il est jeune, il est moderne, mais il joue dans Mission Impossible un peu. Bien. Et donc, donnez-lui les missions, les moyens de l'accomplir. Mais ce n'est pas un cas isolé. C'est quoi la test force de Dieu? C'est un prêtre, une sœur. Alors ça se passe à Hong Kong. Mais et donc, d'où la question, mais ils sont où les fidèles? Eux, ils étendent leur territoire, parce que tout le temps, c'est un désert maintenant, le territoire, mais ils sont où les fidèles? Ça, c'est une question. D'où 3 éléments de compréhension de ce modèle que j'ai appelé le modèle 17. Le premier, c'est qu'il présuppose une communauté. On fait comme si les gens étaient croyants. Mais qui l'a vérifié? On a l'impression, là, de les généraux d'une armée qui avancent au combat comme avant, mais ils ne sont pas rendus compte qu'il n'y avait plus de soldats derrière. Enfin, ils se sont beaucoup posé la question de la pénurie de prêtres, mais ce modèle-là ne nous invite pas à nous poser la question de la pénurie de fidèles. C'est-à-dire, personne ne s'intéresse vraiment au nombre de chrétiens dans ce modèle-là. Alors qu'il y a une chose qui est sûre, hein, et ça c'est les études dont on parlait tout à l'heure sur le nombre de prêtres en France depuis la Révolution française, c'est que le ratio entre le nombre de prêtres et le nombre de catholiques pratiquants en France est absolument stable depuis 2 siècles. si on, depuis deux siècles, depuis le concordat de Napoléon, c'est stable. Si on divise le nombre de catholiques pratiquants par le nombre de prêtres, on a toujours exactement le même chiffre. Exactement. Parce que dans ce schéma en dents de scie, plus il y a de chrétiens, plus il y a de prêtres. Et comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait plus de chrétiens ? Ben, c'est quand le système politique est favorable à l'Église. À la Révolution, ça chute. Avec le concordat Napoléon Ier, ça monte. À la Restauration, ça monte. À la monarchie de Juillet, qui est libertaire, ça descend. Avec la Seconde République, bon, ça a duré deux ans, hein, on n'a pas le temps de savoir. Le Second Empire, ça remonte. Troisième République, ça descend. Loi de 1905, ça descend. Puis ça remonte après, pendant les deux guerres. Et puis d'un seul coup, 1948. Voilà. D'un seul coup, parce que plus personne s'intéresse à la, socialement à la religion. Et plus les communautés chrétiennes sont vigoureuses, plus il y a de prêtres. Et c'est dans ce sens-là que ça marche, c'est pas dans l'autre sens. C'est pas plus il y a de prêtres, plus il y a de croyants. Mais ça, on ne le voit pas si on ne met pas les fidèles dans l'équation. Si l'équation, c'est nombre de territoires, nombre de prêtres, parce qu'on présuppose qu'il y a des chrétiens. Deuxième problème, c'est que ça épuise. C'est épuisant ce système aujourd'hui. Ça épuise soit le ministre, hein, le prêtre avec son oreillette. Je veux dire, à la fin, il est mort. Alors moi, je n'ai toujours pas battu mon record, qui est dans un diocèse aussi de l'Est, et dans le diocèse de Verdun. Moi, je connais un prêtre qui est curé de 86 paroisses. Alors, assurez-vous, c'est des anciennes paroisses. Hein, c'est celle de 1950, mais 86. Il a 86 clochers, dont je rappelle que selon la loi, il doit les visiter toutes au moins une fois par an. Et il n'y a que 52 semaines dans une année. Et donc, ce prêtre-là, il passe plus de temps dans sa voiture qu'auprès de ceux dont, d'après le Code de droit canonique de 1917, il a la charge d'âme. C'est ce que, à la suite d'un sketch connu, on appelle les prêtres sous-barou. Sous-barou, il y avait. Pour regarder sur Internet. On voit un prêtre à bord d'une Subaru, c'est une voiture sportive, avec un casque et tout, et il traverse les villages en jetant des hosties pour que les gens puissent... pour être sûr de pouvoir passer dans tous les villages le dimanche. Bon, vous voyez, c'est le problème. Soit ça épuise le ministre, soit ça épuise la périphérie. Alors ça veut dire quoi? Ça, c'est très important. Très bien. Je vais vous raconter un peu de ma vie, mais... samedi matin, on peut se détendre un peu. Moi, je viens d'un tout petit village dans le nord de la Haute-Vienne, au diocèse de Limoges, qui s'appelle Saint-Léger-Magnézé, 500 habitants, dont 200 dans le bourg et 300 dans des pas très loin de chez vous. Mais c'est plus proche de la Creuse que de la Corrèze. Mais, et tous les autres dans des petites fermes dispersées. Et moi, quand j'étais jeune, dans ce petit village, il y avait un curé qui était le curé de Saint-Léger-Magnézé, qui vivait à Saint-Léger-Magnézé, et qui était curé de deux paroisses, Saint-Léger-Magnézé et Dompierre-les-Églises, qui est à 8 km. Donc, bon, c'était pas très pratique, parce que le dimanche, il fallait qu'il y ait deux messes, voilà, une à Dompierre-les-Églises et une à Saint-Léger-Magnézé. C'était la crise, hein, donc on est comme ça. Et puis, j'ai connu aussi quand le curé de Saint-Léger-Magnézé a été curé de 8 paroisses. Je ne vais pas vous énumérer, parce que... Et j'ai connu aussi l'époque où il n'y a plus eu de curé à Saint-Léger-Magnézé. Le curé, il était à Magnac-Laval. Et aujourd'hui, il n'y a même plus de curé à Magnac-Laval, il est au Dora. Il doit être curé d'à peu près un cinquième du département. Donc c'est exactement... Et le jour où le curé n'était plus dans ne vivait plus dans le presbytère de Saint-Léger-Magnézé, mais à Magnac-Laval, il s'est passé un événement qui, moi, après coup, me marque beaucoup. C'est que... Le mois de mai, comme vous le savez, c'est le mois de
Marie.
Et donc, dans l'église de Saint-Léger-Magnézé, tous les mardis à 20h, il y avait, dans l'église, le mois de Marie. Une activité liturgique qui consistait à chanter les deux premiers couplets de « Chez nous, soyez reine », à dire... 5 dizaines de chapelets, à chanter les couplets 3 et 4 et à rentrer pour aller voir Colombo à la télé. C'était ça. Ma grand-mère faisait partie des organisatrices du mois de Marie. Et donc, elles sont allées voir le nouveau curé, mais qui habitait à Ménéaclara, en disant, ben, mi-avril, quoi. Bientôt, c'est le mois de Marie. Est-ce qu'on peut faire le mois de Marie? On a toujours fait comme ça, à 20h, dans l'église. Et le curé lui dit, ben oui, oui, bien sûr, oui, vous pouvez. Et ma grand-mère, toujours pleine de zèle. Attention, interrogation écrite. Quel âge a ma grand-mère? 101, merci. Tout de suite, c'est plus facile que le tussurisme plus unanime. Et ma grand-mère, pleine de zèle, dit au curé, si vous voulez dîner avant avec nous, ça nous fera plaisir. Et là, le curé lui dit, ah ben non, parce que moi, je ne serai pas là. Moi, j'ai une réunion avec les catéchistes à Lussac les Églises. Et là, d'un seul coup, elle a réalisé qu'il allait falloir faire le mois de Marie sans monsieur le curé. Et alors, elle s'est posé la question avec ses copines, hein, est-ce qu'on peut faire le mois de Marie sans monsieur le curé? Eh bien, la réponse a été non. Il a toujours fait avec monsieur le curé. On ne peut pas se rassembler pour prier dans l'église sans monsieur le curé.
La réponse, elle a été donnée par qui?
Par elle, oui.
Elle au pluriel.
Elle au pluriel. Autre exemple. Ma grand-mère a une sœur qui s'appelle Fernande, qui est décédée il y a 3 ans. Si vous voulez tout savoir, une gamine, puisqu'elle est morte à 89 ans. Voilà. Les petites jeunes, ça ne tient pas la route. Et ma tante Fernande, elle habite dans un lieu dit de Saint-Léger-Bénédicte qui s'appelle le Puy Saint-Jean, où il y a 3 fermes. Voilà. Sauf qu'on est à 3 km de Saint-Léger-Bénézé, on est à 11 km de Magnac-Laval, mais on est à 16 km du Dorat. Et à 89 ans, elle conduisait encore, qui, de mon point de vue, n'était pas à la chose. On lui demandait de nous prévenir quand elle sortait, et nous, on disait aux enfants de ne pas venir. Et quand nous, on a racheté une maison là-bas, mais donc quand on y est, on lui dit, est-ce que vous voulez qu'on vous conduise à la messe? Et puis, de temps en temps, elle dit oui, puis on s'est remarqué que de temps en temps, elle disait non. Alors, ce qui nous étonnait un peu, c'est une femme très pieuse, hein, ma tante Fernande, elle est très très pieuse. Hein. Puis elle prie beaucoup, elle avait organisé un groupe du rosaire depuis 5 ans, trois fermes quoi. Elle disait non. Et puis on disait, et puis on savait que quand on lui proposait pas, elle n'allait pas à la messe. Et on dit, mais pourquoi? Elle dit, mais c'est trop loin. C'est trop loin. Enfin. Et alors on s'est rendu compte qu'elle disait oui quand il faisait beau, elle disait non quand il faisait froid, parce qu'elle dit, mais moi je. Oui, mais. Je ne peux pas aller passer une heure dans ce truc tout froid là. Si j'attrape la grippe, moi je. Enfin, elle avait peur d'aller à la messe. Pourquoi? Parce que la messe c'était loin. Et il n'est jamais venu. Je fais le lien avec le mois de Marie. Il n'est jamais venu à l'idée des gens du Puy Saint-Jean, qui étaient des gens très pieux, de se rassembler le dimanche pour prier ensemble. Non, chacun restait chez eux à regarder la messe à la télé. Vous voyez, ça exténue la périphérie, parce que. Le guichet, il est trop loin d'eux. Et là, en plus, il était trop froid. Alors après, on aura beau jeu de leur dire, oui, mais pour aller faire les courses, ils arrivent bien à faire leurs courses, hein, ils arrivent bien à aller à Magnac-Laval, à l'Intermarché. Oui, mais c'est pas pareil. Hein. C'est-à-dire, ils y vont, il fait pas froid, ils n'y restent pas une heure, et puis, la plupart du temps, de toute façon, c'est les commerçants qui passent avec leurs petites camionnettes, qui leur donnent leur pain, leur viande, leur truc, et elle va une fois par mois à Intermarché pour faire ses courses. Mais, ça exténue la périphérie, c'est-à-dire que si le guichet, en plus, on la lie au principe territorial qui fait des territoires de plus en plus grands, ben, y a le centre, où là, ben, c'est facile, hein, mais rien n'est organisé pour les petites gens des périphéries. Oui. Et puis, comme on l'a vu, ça réduit la mission, mais il ne faut pas que je bavarde trop. Parce que... Deuxième modèle, je l'appelle le modèle 83, et là, maintenant, vous savez pourquoi. Ben, pas les nouveaux, parce qu'ils n'ont jamais fait de droit canonique, mais à cause du code de droit canonique de 1983, et donc, je prends le même canon, c'est-à-dire celui qui débute la section sur la paroisse, qui est ici le canon 515, premier paragraphe, il commence par « La paroisse est la communauté précise de fidèles qui est constituée d'une manière stable dans l'Église particulière. » Donc là, on a un élément, c'est « communauté-territoire » et dont la charge pastorale est confiée au curé comme à son pasteur propre sous l'autorité de l'évêque diocésain. Donc on a la même chose, l'autorité de l'évêque, le territoire, le curé, mais on a commencé par la communauté de fidèles. Et là, d'un seul coup, ça change tout. On entre dans une logique qui est à la fois, que j'appelle moi ici à la fois, charismatique et sacramentelle. Pourquoi charismatique? Parce que, au lieu de s'intéresser à l'organisation juridique de l'Église, On s'intéresse à un principe que je vais vous répéter au moins 10 fois et qui fera partie de la dernière évaluation en fin de journée, je compte sur vous. La question sera où se trouvent les dons de l'esprit, et la réponse, je vous l'ai dit, c'est sympa comme prof, là ça va faire monter la note. Hein. L'ensemble des dons de l'esprit ne se trouve que dans l'ensemble de l'Église. Voilà, c'est ça la réalité charismatique de l'Église. Et son corollaire, c'est sa réalité sacramentelle, c'est parce que les charismes sont distribués dans l'Église par les sacrements. Et donc, dès les sacrements de l'initiation chrétienne, il y a quelque chose de l'ordre de la vitalité charismatique de l'Église qui s'exprime. Donc, on pense à la communauté, donc aux charismes au pluriel qui sont partagés par tous, et au sein de cette communauté, à celui qui a reçu un charisme particulier que les autres n'ont pas, mais qui l'habilite à exercer cette charge pastorale pour les autres, à conduire l'Église. Et donc là, vous voyez, les schémas d'un seul coup sont tout à fait différents. Alors, pour essayer de comprendre cette logique, je vais faire le même exercice que tout à l'heure, mais dans un tout autre registre. Essayez de voir comment ça fonctionne, une logique qui est avant tout charismatique et sacramentale. Alors là, on ne va pas raisonner par l'absurde, on va raisonner par le solide. Alors, le plus simple, c'est de regarder cette communauté charismatique et sacramentelle fonctionner. Alors évidemment, c'est là que le temps nous est très compté. Enfin, si on veut regarder cette communauté fonctionner, on va avoir un problème, c'est que cette communauté, elle est vivante, donc ça, elle fonctionne de plein de manières différentes. Alors on va partir du principe que, pour qu'on voit à quel point elle est sacramentelle et charismatique, on va la regarder vivre sa vie liturgique. La vie liturgique, déjà, si vous devez, avoir un cours rien que sur les sacrements et la liturgie, enfin, moi j'ai 10 minutes là. Donc, on va essayer de se centrer sur l'essentiel. Donc, Vatican II nous a dit que la source et le sommet de la vie chrétienne, c'était l'Eucharistie. Concentrer sur l'Eucharistie. Mais même l'Eucharistie, c'est trop long. Donc, je vais me concentrer pour vous, un petit exercice qu'on va faire, sur 3 secondes d'une célébration eucharistique. Donc, on va regarder une communauté chrétienne célébrer l'Eucharistie pendant 3 secondes. Puis, on va en tirer des conclusions pour savoir ce que c'est. C'est un peu périlleux. Alors, c'est un exercice qui demande une chose. C'est un prérequis, donc je suis désolé de vous l'annoncer pas très en amont. Ça demande que chacun d'entre vous ait au moins une fois participé à une célébration eucharistique. Parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. Donc, s'il y en a parmi vous qui ne sont jamais allés à la messe, vous donnez un petit coup de coude à votre voisin pour qu'il vous explique au fur et à mesure, parce que sinon, vous allez paumé, je vous prie. Alors, vous êtes prêts? Première seconde. Quelqu'un dit « Le Seigneur soit avec vous ». Top chrono. J'arrête le chrono, là. Ça vous dit quelque chose?
Oui. Ouais. Dominus vobiscum.
Exactement. Dominus vobiscum. Voilà. Ça, c'est très important. Parce qu'on va le dire en latin après. Donc. Vous m'avez déjà entendu faire ce truc-là. Alors là, il se passe 3 choses en même temps. C'est pour ça que, si plus de 3 secondes, ça nous... Ouais. D'abord, il y a quelqu'un qui parle. Ce quelqu'un, c'est le ministre qui préside la communauté. Il préside sa vie et sa mission. Et ça, c'est l'avantage de l'Église catholique romaine, c'est que cette personne-là, elle est donnée quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire un débat participatif et un vote pour savoir qui va présider la célébration de l'Eucharistie. De droit, seul l'évêque préside l'Eucharistie sur son territoire. Et il peut déléguer cette présidence à quelques-uns qu'il appelle des curés, qui peuvent même le déléguer à condition que ce soit toujours à des prêtres collaborateurs de l'évêque. Ils ne peuvent pas dire à madame, à ma grand-mère, « Ah ben, c'est vous qui allez dire la messe ?» Non, ça, il ne peut pas. Deuxièmement, ce ministre, il adresse la parole à quelqu'un. Le Seigneur, c'est avec vous. Et ce quelqu'un... Alors, en rigueur de terme, si on était dans un cours de liturgie, dans un cours de sacramentaire, on devrait dire, c'est la synaxe liturgique. C'est l'assemblée liturgique. Moi, pour des commodités... pédagogique et de rapidité de démonstration, j'ai appelé ça la communauté. Mais évidemment, la communauté, c'est plus large que l'assemblée liturgique. Je veux dire, il y a des gens qui sont membres de la communauté qui ne sont pas à la messe. Et par exemple, dans la paroisse, il y a 5 messes chaque dimanche, on ne peut pas dire laquelle est la messe de la communauté. Ça, on pourrait pas dire. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas là parce qu'ils sont malades. Il y a des gens qui ne sont pas là parce qu'ils sont en voyage. Il y a des gens qui ne sont pas là parce qu'ils sont en vacances. Enfin, bon. Donc, mais on va dire la communauté par... Donc, premièrement, il prend la parole. Deuxièmement, il adresse la parole à quelqu'un. Troisièmement, il indique celui par lequel cette action va pouvoir avoir lieu, cette action liturgique, c'est le Seigneur. Le Seigneur, il est avec vous, présent, agissant, et ceux qui se souviennent de ce qu'on a dit sur la Pentecôtière, maintenant ils se souviennent que c'est le Seigneur qui adjoint à la communauté ceux qui trouvent le salut. Enfin, qui était là hier soir? On vous expliquera aux autres à la pause aussi. Voilà, ça c'est première seconde, trois choses en même temps. Deuxième seconde, il se passe quelque chose, la communauté répond. Et avec votre esprit. C'est-à-dire, monsieur, et cum spiritu tuum. C'est là que le latin va être important, c'est pour ça.
C'est pas tout, non?
Ah bah oui. Là, il se passe trois choses en même temps. La première, c'est que la communauté prend la parole. Elle est devenue un sujet. Vous voyez, si on enlève la communauté de l'équation, il va manquer quelque chose. Voilà. Personne ne pourra répondre, et avec votre esprit. Alors, évidemment, la communauté, elle existait avant le code de droit canonique de 83, mais elle n'était pas prise en compte dans le code. Elle était prise en compte dans la liturgie, mais pas dans le code. Et elle manquait, oui. Mais on avait de la ressource. Deuxièmement, elle adresse la parole à quelqu'un. Elle dit bien « et cum spirito tuo » et avec ton esprit. Et en français, on est poli, on dit le « vous » de politesse. Et troisièmement, alors là, puisqu'il y en a plusieurs parmi vous qui sont déjà allés à la messe, ils vont pouvoir nous expliquer, elle, ça veut dire quoi ? Et avec votre esprit. Votre esprit. Le nôtre ?
Non, c'est l'Esprit Saint.
Oui, mais l'Esprit Saint, il n'est pas à vous, et puis il y aurait un E majuscule.
Parce que le président.
Il représente l'Esprit Saint.
Non.
Mais là, on ne parle pas du Christ. Hein.
L'Esprit du Christ.
L'Esprit du Christ. Mais là, on ne parle pas du Christ, on dit avec votre esprit. On ne dit pas avec l'esprit du Christ, on dit avec votre esprit à vous. Et comme je dirais tout, tout ton esprit. Alors c'est qui le Seigneur? Il commence avec qui? Le prêtre commence avec le Seigneur. Il est avec vous, oui. Et le Seigneur est aussi avec votre esprit. Mais pourquoi on dit esprit et pas et avec toi? Ce n'est pas la communion des saints. Ah non, votre, non, non, votre, c'est tu, le tien. On s'adresse bien au prêtre.
La partie sacrée du prêtre, c'est pas ça du
carré. Alors attention, j'ai un mot technique qui est apparu. Vous appelez comment, madame? Sylvie. Sylvie a dit le mot technique. Alors allez-y, faites une phrase, Sylvie. C'est exactement ça. En fait, on dit, le Seigneur, il est avec toi aussi, mais d'une manière particulière, parce que tu as reçu un don de l'Esprit, le jour de ton ordination, qui te permet, voilà, de présider la communauté, et donc la célébration qui construit la communauté, l'Eucharistie. On dit, le Seigneur, il est avec toi aussi, mais on le fait avec cette spécificité charismatique qui fait que, le jour de son ordination, le prêtre a reçu un don de l'Esprit, qui lui permet, au nom du Christ, de conduire et de faire grandir la communauté. De la conduire et de la construire. Ce qui n'annule pas le fait qu'il était baptisé, ce qui n'annule pas non plus les charismes des autres qui sont baptisés, mais qui vient, voilà, structurer l'ensemble de l'Église. Et alors ça, c'est très important parce que ça enclenche la troisième seconde. Alors qu'est-ce qui se passe à la troisième seconde ? Ceux qui sont déjà allés à la messe, je veux dire, les autres, je comprends que vous ne répondiez pas. Mais... Ben, ça dépend, parce que le Seigneur est avec vous et avec votre esprit, on le dit à plusieurs reprises dans la célébration de l'Eucharistie. Mais à chaque fois, ça produit la même chose. Et là où on le voit le mieux, c'est dans la préface, dans le dialogue qui introduit la préface de la prière eucharistique. Le ministre répond, élevons notre cœur, et la communauté répond, nous le tournons vers le Seigneur. Vous avez vu ce qui s'est passé? On a changé de pronom personnel. Avant, c'était vous, lui, le Seigneur, toi, le prêtre. Et d'un seul coup, l'Église se met à dire « nous ». Et pour ceux qui étaient là hier soir, c'est exactement le même « nous » qu'à la Pentecôte. Exactement le même. L'Eucharistie, c'est la Pentecôte. Enfin, la Pentecôte, c'est l'Eucharistie. C'est, voilà. C'est un « nous », c'est l'Esprit qui nous rassemble en un « nous ». Mais... l'Église, elle n'existe pas, nous a dit le pape François, pour son auto-préservation. Donc la messe ne s'arrête pas là. Et là, on pourrait dire, ça y est, nous sommes l'Église, ne bougeons plus, pas nous déliter. Non, non. L'Église se met à parler à quelqu'un d'autre. Donc, Dominus obiscum, et cum salto, sorsum corda. Et d'un seul coup, l'Église se met à parler à quelqu'un d'autre. Vraiment, vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce. Mais c'est qui ça? Tu. Ah ben non, c'est pas celui d'en haut, parce que sinon on est mal. Sinon, Oui, mais à qui alors? Encore une fois, ceux qui sont déjà allés à la messe, hein, les autres aussi. Ouais. Mais l'avantage de la liturgie, c'est qu'il n'y a pas besoin d'explication. On dit tout ce qu'on fait. On le dit. Voilà. À qui l'Église s'adresse-t-elle dans la bouche du prêtre quand le prêtre dit... Et comment est-ce qu'on le sait? Comment est-ce qu'on sait que c'est le Père? De te rendre grâce à toi, Dieu le Père Tout-Puissant. Voilà. Oui, on le dit, c'est pas la peine de chercher midi à 14h. Cherchez pas des raisonnements, on le dit, c'est simple. Mais si on sait que celui à qui on s'adresse, c'est le Père, alors on peut se poser la question, qui est le Seigneur? Qui est avec vous? Comment est-ce qu'on le sait? Comment est-ce qu'on le sait? Oui, mais là on ne dit pas que c'est le Christ. Là. Une hypothèse dans le fond? Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père. Par lui, avec lui, c'est qui lui? Le Christ. Donc, vous voyez là, la célébration, c'est la fin des trois groupes. La célébration de l'Eucharistie, c'est le Christ qui s'associe à l'Église pour rendre gloire à Dieu son Père. Vous voyez, en trois secondes, on voit ce que c'est qu'une communauté charismatique et sacramentelle, c'est ça. C'est une communauté qui dépend de l'action du Christ, qui existe dans un dialogue qui lui permet de s'exprimer en nous et qui rend gloire au Père. Alors, pour que ce schéma-là puisse être éventuellement transposable à l'ensemble de la mission de l'Église, il faut se poser une question et faire deux petits réglages. Première question, nous on est plutôt chrétiens ici dans cette pièce, enfin, en tout cas ceux qui vont à la messe le sont. Si on a le Père et le Fils, on devrait normalement avoir... Ils ont déjà eu un cours de Trinité. L'Esprit. Alors ma question c'est, où est l'Esprit Saint dans le chemin? Dans l'ensemble.
Dans les flèches.
Alors évidemment, moi je ne fais pas de pneumatologie, moi j'enseigne l'ecclésiologie, donc, mais provisoirement on pourrait dire, mais ne le répétez pas à votre prof qui vous enseigne la dogmatique trinitaire ou même la pneumatologie, André Duplex, ne dites pas André, là. Ici l'esprit ce sont des flèches bleues. Si vous répétez ça le jour de l'examen, de toute façon, elle pourrait être verte, elle pourrait pas être des flèches. Bon. L'esprit, c'est des flèches grossières. C'est lui que le Christ répand dans son Église par l'ensemble des sacrements depuis la Pentecôte. C'est lui qui nous met en communion les uns avec les autres et qui nous fait nous exprimer en nous comme à la Pentecôte. Et c'est lui qui nous tourne et nous convertit pour nous tourner vers le Père et nous restaurer dans la communion avec lui. Voilà. L'esprit, ce sont des flèches. Les deux réglages. Premier réglage, on a un problème avec cette partie-là. Je vous explique. Je suis capable de vous dire que la liturgie, c'est le Christ qui s'associe à l'Église pour rendre gloire à son Père. Ça va. Si je passe à la mission d'annonce de l'Évangile. Le Christ s'associe à l'Évangile pour annoncer l'Évangile au Père. Je veux dire, ça va être rapide parce que si le but de l'évangélisation, c'est d'annoncer que le Christ est ressuscité, rassurez-vous, le Père est déjà au courant, c'est lui qui l'a ressuscité. Vous voyez, c'est pas... Donc, on a un petit problème dans la formulation en bas, pour que ça soit valable pour toute la mission. Alors là, je vais vous poser une question théologique difficile, mais il faut en passer par là, même en fin de matinée. Pourquoi célébrons-nous l'Eucharistie? Petit indice, avant que vous raisonniez. On le dit dans la liturgie, et de fait, la réponse est là. Pour la gloire de Dieu et le salut de Dieu. Alors, peut-être qu'on va finalement continuer à le dire, puisque j'ai vu que la question de la traduction du missel est modifiée. Ça va y changer, mais de toute façon, ça n'empêchait pas que, dans la Constitution sur la Sainte Liturgie de Vatican II, Sacrosanctum Concilium, on dise que l'Eucharistie, c'est ce par quoi le Père est pleinement glorifié et le monde sauvé. Donc, de toute façon, c'est dans la tradition théologique de l'Église, il n'y a pas de problème. Et là, ça marche. Le Christ s'associe l'Église pour célébrer la liturgie, ça rend gloire à Dieu, ça sauve le monde. Le Christ associe l'Église pour annoncer l'Évangile, ça rend gloire à Dieu, ça sauve le monde. Le Christ associe l'Église pour être présent auprès des plus faibles, des plus pauvres, des malades, des prisonniers, de ceux qui ont faim, de ceux qui ont soif, etc. Ça rend gloire à Dieu, ça sauve le monde. Et là, ça marche. Là, on peut déployer toute la mission. Bon. Deuxième réglage. Il y a un petit problème, cette fois, à ce niveau-là. C'est qu'on pourrait laisser croire que le ministre n'est pas membre de la communauté. Ben si, enfin... Je rappelle, ça c'est une règle d'or en théologie de l'ordination, que l'ordination diaconale, l'ordination presbytérale et l'ordination épiscopale n'annulent pas les effets du baptême. La preuve, c'est que les prêtres continuent à aller à la messe. Oui, donc, on va, pour bien signifier qu'il est à l'intérieur de la communauté, voilà... Il est un membre de la communauté, mais à un titre particulier. Et là, on voit pourquoi, dans la tradition théologique, on dit, par exemple, en vis-à-vis de la communauté. Il est à la fois membre de la communauté, il entretient avec les autres un rapport d'extériorité à eux, à cause de ce charisme de présidence. Voilà. Mais là, vous voyez, on se dit, mais comment est-ce qu'on va pouvoir transformer de manière missionnaire l'Église dans le modèle 17, on ne voit pas trop. Dans le modèle 83, d'un seul coup, on voit apparaître le fait, voilà, que ça va être par le Christ, ça c'est clair, et ça va être en mettant en œuvre la mission dans un dialogue qui prend appui aussi bien sur les charismes des ministres ordonnés que sur les charismes de l'ensemble des baptisés. C'est-à-dire, pour ceux qui ont déjà lu Lumen Gentium numéro 10, sur le sacerdoce commun des fidèles, c'est tout ça, le sacerdoce commun. Je vous rappelle, le sacerdoce commun, ce n'est pas le sacerdoce des laïcs, c'est le sacerdoce de tous les baptisés, donc des prêtres aussi, et le sacerdoce ministériel, qui s'articule sous la forme ici d'un dialogue dans l'esprit. Et là, d'un seul coup, on comprend comment il va être possible de faire un choix missionnaire qui soit capable de transformer toute chose. Ce choix missionnaire, il va s'appuyer sur cette dynamique charismatique et sacramentelle. Alors, de quelle manière ? Eh bien, d'abord, il va s'appuyer sur la capacité... Je voyais pas la diapositive après. D'abord, ce choix missionnaire, il nous dit une chose, c'est le primat de la mission. Donc ça signifie, là vous voyez que je reviens à la même conclusion qu'hier en étant passé par un autre chemin, ça signifie qu'à chaque fois qu'on a une décision à prendre, il faut se poser la question de savoir est-ce que c'est pour la mission ou est-ce que c'est pour maintenir la structure. Il y a une forme de confort à faire comme on a toujours fait et à dépenser beaucoup d'énergie pour... continuer, et d'énergie et de budget, etc., dans un décès, pour continuer à maintenir des structures qui ne fonctionnent plus. Ça, c'est possible. Mais est-ce que ça annonce l'Évangile ? Donc, le primat de la mission. Le but, c'est pas de savoir combien on a de paroisses, le but, c'est de savoir comment est-ce qu'on va annoncer l'Évangile. Et s'il nous faut 10 paroisses, on en fera 10, s'il nous faut 100, on en fera 100. Ça dépend des lieux, enfin... Mais la question, c'est comment est-ce qu'on va annoncer l'Évangile ? Se rappelle toujours le but avant de s'intéresser aux moyens. Le but, c'est la mission. Les moyens, c'est la structure. Voilà. Ah, pour ça, il faut se poser un certain nombre de questions quand même. D'abord, est-ce que la paroisse a un avenir ? Est-ce que finalement, bon, on évacue tout ça, on change tout le modèle, les paroisses sont... Et l'important, c'est d'annoncer l'Évangile. Alors, attention, là, le pape François, dans l'Evangelii Gaudium, nous dit non. La paroisse a un avenir. On a besoin de la paroisse. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la paroisse ? Pour deux raisons. Et c'est là qu'on voit l'alliance de communauté, territoire, prêtre. On a besoin de la paroisse. La première raison, c'est parce qu'on ne choisit pas ses frères. Si l'Église, c'est une communauté fraternelle, on ne choisit pas ses frères. N'est-ce pas ? C'est la fin d'une conversation. On les reçoit du Christ. On ne choisit pas son curé. on le reçoit de l'Église. On ne choisit pas son évêque. On les reçoit. Parfois on est content, parfois on n'est pas content, mais c'est la même foi, le même évangile et le même Christ. Voilà. Et c'est la même mission. On ne choisit pas. Et ça, ce qui le garantit, c'est le principe territorial de la paroisse. En habitant quelque part, je suis membre de cette paroisse, et par exemple, je ne peux pas faire baptiser mon enfant ailleurs. Je ne peux pas me marier ailleurs. Si je veux faire baptiser mon enfant ailleurs ou me marier ailleurs, il faut une autorisation de mon curé. Parce que c'est lui qui est responsable de ceux qui sont sur ce territoire. Parce que je suis membre de cette communauté-là. On ne choisit pas les frères à qui on va souhaiter la paix du Christ à la messe. Si on ne dit la paix du Christ à la messe qu'à ceux qu'on aime déjà, il y a un passage dans l'Évangile qui vous dit c'est un peu trop facile, vous aimez vos ennemis. Un truc comme ça. Les pharisiens font pareil. Mais vous n'êtes pas des pharisiens. Vous êtes des chrétiens. Et ça, la paroisse le garantit. Et par ailleurs, la paroisse garantit un autre grand principe de la vie de l'Église, c'est que on n'est jamais tout seul. On est toujours membre d'une communauté. En habitant ici, j'ai des frères. Et c'est tellement bien fait que le Code de droit canonique prévoit même que vous avez des frères si vous êtes sans domicile fixe. Vous avez des frères. Vous n'avez pas d'effort à faire pour devenir membre de cette communauté. Vous y êtes membre de droit. Parce que comme vous avez été baptisé, vous êtes porteur d'un dynamisme qui vient de l'Esprit-Saint, et donc cette communauté, de toute façon, elle a besoin de vous. Donc, il n'y a pas d'examen d'entrée, il n'y a pas de... Quand vous déménagez, vous arrivez dans une nouvelle paroisse, on va vous dire, oui, mais alors est-ce que vraiment vous voulez venir ici? Attendez, il y a un examen, il faut payer un droit d'entrée. Alors chez nous, à Bellevue-en-Cours, c'est 8000 euros par an, et voilà. Mais à la campagne, c'est que 300, c'est comme les impôts locaux. Ça. Non. Vous habitez là, vous êtes membre, voilà, et les autres sont déjà vos frères. Vous n'avez pas d'effort à faire pour avoir des frères. Vous êtes membre, voilà. Vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes, pour ceux qui étaient là hier soir, agglutinés déjà avec les autres. Donc vous voyez, pour ces deux raisons, la paroisse, elle a un avenir. Puis il y aurait une troisième qui est de dire, mais parce que l'évangile, ça s'annonce au plus près de la réalité des hommes. Pour vivre et célébrer l'évangile, il n'y a pas besoin d'aller en haut de la montagne. Il faut y aller de temps en temps pour se faire du bien, mais on va à la messe avec sa boulangère, avec son voisin, avec le conseiller municipal qui n'est pas du même bord que soi, mais voilà. Et ça, c'est l'Église, voilà. Ça, c'est l'Église. Et la vérité de la communion, c'est qu'on se déteste, mais on est frères. Et oui, parce que la vérité de la communion, c'est pas qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce qu'on est au chaud tous ensemble, mais qu'est-ce qu'on s'aime. Ça, c'est une secte, ça. Deuxième question, la paroisse est-elle plastique? Attention, j'ai pas dit la paroisse est-elle en plastique. Est-elle plastique, c'est-à-dire est-ce qu'elle peut évoluer? Est-ce qu'elle a suffisamment d'élasticité pour changer? Et là, le pape François, dans Evangelii Gaudium, nous dit oui. Donc, on va le croire. Et il nous donne des éléments sur comment elle change. Voilà. Et elle change de plusieurs manières. Donc, après le primat de la mission, là, l'une des manières dont l'Église change, c'est le primat des charismes de tous. Lorsque on reconnaît la pleine participation de tous à la vie et à la mission de l'Église, alors l'Église est plus forte et elle se transforme. Ça veut dire que dans la responsabilité spécifique de quelques-uns, qui sont l'autorité de l'évêque, l'autorité du curé, etc., eh bien, il y a place pour la voix de tous. Ça s'appelle, par exemple, la synodalité de l'Église. Cette capacité à dire que, puisque l'ensemble des dons de l'Esprit ne se trouve que dans l'ensemble de l'Église, alors il faut, pour que l'Église puisse être vraiment l'Église du Christ, qu'elle puisse vraiment reposer sur l'ensemble des charismes de tous. Et donc, c'est un principe de fraternité hiérarchique, on peut dire. En fait, on dit communion hiérarchique, mais... Ce qui fait que Monseigneur qui est là, bien, je suis pleinement son frère, il est pleinement mon frère, mais il est évêque. Voilà. Et dans ce rapport fraternel, il y a une dissymétrie. Mais les deux sont possibles parce que, vous avez vu tout à l'heure, attendez, je vous le remets si vous ne l'avez pas vu, parce que les deux sont du Christ. Et la fraternité et la hiérarchie sont du Christ. C'est lui qui l'a organisé comme ça. Et lui, le ministre ordonné, alors l'évêque ou le curé, il est là pour éviter que nous nous replions sur nous-mêmes et nous maintenir ouverts sur le Christ. C'est ça son seul rôle. Donc si vous avez l'impression qu'il est, son ministère c'est un peu une épine dans le pied ou un petit caillou dans la chaussure, c'est normal, il est là pour ça. Je dis souvent, un évêque c'est un caillou dans la chaussure. Voilà. Pour que vous vous souveniez que si vous marchez, c'est par le Christ, pas par vos pieds. Voilà. Vous pouvez demander l'avis de Mgr Charrier. Sa théorie sur les épines et sur les cailloux, on va lui laisser la parole. Donc, primat de la mission, primat des charismes de tous, et surtout le primat des pratiques. Le schéma que je vous ai fait tout à l'heure, tiré de l'Eucharistie, il vous montre que l'Église devient l'Église qui annonce et qui offre une bonne nouvelle, c'est une Église qui est toujours en pratique. C'est une Église qui célèbre, c'est une Église qui annonce, c'est une Église qui sert, mais c'est la mise en œuvre des pratiques de l'Église qui permet de rapatrier tous les charismes dans la vie et la mission. De telle sorte qu'on peut dire sur le schéma de tout à l'heure qu'il ne peut pas y avoir d'Église sans prêtre, qu'il ne peut pas non plus y avoir d'Église sans les autres fidèles, et que c'est lorsqu'ils arrivent ensemble à agir au nom de leur foi qu'alors l'Église redevient pertinente. Ce que le modèle de 17 ne permet pas, juste parce qu'il avait oublié une composante, mais parce qu'à l'époque, il n'en avait pas besoin. Et puis, on peut aussi, mais là je vais être beaucoup plus rapide, prendre appui sur les communautés associatives, sur les structures associatives. Parce que là, ce qu'on appelle le diocèse, les paroisses, les canonistes appellent ça la structure hiérarchique de l'Église. Moi, je préfère la structure institutionnelle de l'Église. Mais la paroisse, ce n'est pas le tout de la mission de l'Église. C'est-à-dire, s'il n'y a que les paroisses pour annoncer l'Évangile, s'il n'y a que les paroisses pour apprendre aux chrétiens à prier, s'il n'y a que les paroisses pour qu'on puisse se soutenir mutuellement dans la foi, c'est... non. Il y a une autre structure, beaucoup plus horizontale de l'Église, c'est la structure associative, qui regroupe aussi bien les ordres religieux que les associations de fidèles. La grande différence entre les deux, c'est qu'une communauté hiérarchique ou institutionnelle, on n'a pas besoin de faire acte volontaire pour en être membre, on est un membre de droit en habitant quelque part, alors qu'une structure associative, il faut décider. Moi, en habitant dans ma rue à Boulogne-Billancourt, je suis membre de la paroisse Notre-Dame de Boulogne. Ma sœur, en habitant là où vous habitez, vous êtes membre d'une paroisse. Mais le fait que vous soyez membre aussi de votre congrégation religieuse, là, c'est un choix personnel. C'est une démarche personnelle qui n'est pas du tout de même nature que la démarche qui vous incorpore à la communauté paroissiale. Pareil pour... vous êtes père de Thomas Becket, c'est ça? Voilà. Vous, en tant que chrétien, vous êtes membre d'une paroisse, je sais, mais en tant que membre, c'est quoi? C'est le statut juridique? Association publique de fidèles, oui. Eh bien, pour être membre de cette association, il y a une différence dans l'engagement. Et c'est valable peut-être pour vous aussi. Enfin. Très bien. Ah oui, dans ce cas-là, c'est différent parce que c'est le droit diocésain. Et le principe, c'est que dans l'Église, la communauté associative, la structure associative a besoin de la structure hiérarchique parce que c'est la structure hiérarchique qui garantit les pleins moyens de salut. Voilà. Dans la congrégation de la sœur, personne ne peut présider la célébration de l'Eucharistie. Il n'y a pas d'homme dans cette congrégation. Il y a des frères et il y a des prêtres.
Oui, on est couché familial.
Ah oui, oui, mais c'est, vous n'êtes pas du même, juridiquement du même ordre. Oui. C'est ça, oui. Mais par exemple, même les pères carmes, même les frères carmes, ils ont besoin d'un évêque pour être ordonné prêtre. Oui, mais vous voyez, la structure associative a besoin de la structure institutionnelle parce que seule la structure institutionnelle peut garantir l'ensemble des moyens de salut. Mais la structure institutionnelle a besoin de la structure associative. Hervé Legrand a écrit un article tout à fait stimulant là-dessus, c'est l'Église institutionnelle n'est jamais capable de se réformer par elle-même. Jamais. Parce qu'elle est toujours intéressée à la structure. Alors que les communautés associatives, elles, sont intéressées par la mission. Donc elles sont une réserve de transformation. Par exemple, la réforme grégorienne dont je parlais tout à l'heure, elle a pu avoir lieu grâce aux moines de Cluny. Par exemple, la réaction à la réforme a pu avoir lieu par la création des jésuites, entre autres. Hein. Par exemple, en France, à la suite de la Révolution française, l'Église a pu retrouver tout son dynamisme à travers les centaines de congrégations soignantes et enseignantes qui ont surgi. Voilà. Et ça, ça transforme l'Église. Alors, il y aurait une chose à faire à bientôt, là, c'est encore trop tôt, mais de voir qu'est-ce que ça change quand on confie une paroisse à une structure associative, à une congrégation religieuse, à une association de fidèles. Qu'est-ce que ça change quand dans l'Église, le pape, il est jésuite? Non mais, vous voyez le... Et donc, elles ont besoin les unes des autres, et elles créent une forme de mouvement missionnaire, voilà, qui fait que, moi par exemple, je suis membre de la communauté vie chrétienne, donc je suis plutôt au côté jésuite, mais voilà, ça nourrit ma foi, ça nourrit aussi mon engagement dans la paroisse, et réciproquement, voilà. Il y a un cercle vertueux possible. Alors, c'est jamais très simple parce que c'est le même principe que la communion. Enfin, c'est pas tous, c'est pas le monde des bisounours. Voilà. Et le pape appelle ça, voilà, être l'église en sortie. Voilà. Dans Evangelii Gaudium, une église de disciples missionnaires qui prennent l'initiative, qui s'impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. L'église en sortie, parce que bah, précisément, c'est ce mouvement qui est né d'une part, qui tient sa dynamique d'une part de l'œuvre de l'Esprit, d'autre part de la structure même de l'Église, de ses pratiques et de la manière dont elle est organisée, ben la transforme. Alors, encore une fois, je fais exactement la même conclusion qu'hier soir, ça dans Evangelii Gaudium, le pape François dit, c'est le programme. La question, comment on fait, c'est une question qu'il faut poser au pasteur, moi je ne suis que théologien, je n'ai pas à dire à l'Église ce qu'elle doit faire. Je peux essayer de lui dire ce qu'elle est en train de faire, mais voilà. Je peux donner des critères, je peux donner des cadres. Mais ce qu'il faut faire, ça, c'est la responsabilité des pasteurs. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça, c'est la responsabilité des astrologues. Ou des prophètes. C'est mieux, des prophètes, d'ailleurs, que des astrologues. Et c'est entre les mains du Seigneur. Donc, vous n'en faites pas, ça va bien se passer. Voilà. C'est ce qui va permettre de quitter certaines choses pour aller vers d'autres. Voilà, et d'assumer ce mouvement qui nous fait rentrer, sortir, mais qui nous rappelle que pour être missionnaire, pour être le plus grand des missionnaires, il faut d'abord se redevenir disciple, parce que c'est le Seigneur qui nous envoie. Voilà. Donc, bon courage, et bon courage aussi pour faire en sorte que bah, vos études, les études que vous menez ici, elles vous équipent, voilà, non seulement pour le comprendre, mais surtout pour vous rendre disponible, à ce mouvement, et en faire bénéficier l'ensemble de l'Église. Je vous remercie.